Bien, donc alors nous sommes très contents de pouvoir nous entretenir avec donc Alberto Jiménez Sarquet. Désolé pour la prononciation du nom peut-être.
Ah, écoute, mon français c'est terrible donc.
Donc,
c'est nickel.
Parfait, donc merci de bien vouloir répondre à quelques questions donc pour ActuSF.
Mon plaisir.
Alors donc pour commencer, peut-être pour que nos lecteurs puissent faire votre connaissance, pouvez-vous vous présenter et nous dire comment vous en êtes arrivé à la bande dessinée?
À la bande dessinée, ok. J'ai commencé professionnellement, bon, j'ai lissé la BD comme tout le monde était petit, j'ai pas arrêté. Et professionnellement, j'ai commencé il y a plus de 10 ans chez Paquette, dans les marchés franco-belges. Et j'ai fait une série de 3 tomes là-bas. Et après ça, j'ai commencé à travailler chez Soleil. J'ai fait diverses collections, dont la dernière a été une série qui s'appelle Elle, avec le scénario de Lee Shuraki sur la collection 1800. Et bon, après ça, j'ai cherché du boulot, j'ai toujours aimé les comics, donc j'ai cherché aussi aux États-Unis et j'ai trouvé Onipress. Ils m'ont proposé de travailler sur le Terre 44 et évidemment je pouvais pas dire non, hein. Le projet était tellement fort et j'ai dit oui, voilà.
Oui, effectivement, c'est un projet ambitieux.
Un petit peu, oui. Mais c'est l'idée du scénariste. Hein, moi, c'est sa faute.
C'est grâce à lui aussi.
Oui. C'est sa faute, toujours.
Et donc, avant d'en venir un peu plus précisément à l'éditeur 44, quelles sont vos influences et inspirations de manière générale?
Pour la série, j'ai eu beaucoup d'inspiration de tous les milieux, la série télé, les cinémas, les jeux vidéo, les comics. Et j'ai tellement des influences que je ne peux pas arrêter. Hein, pour la part politique, bon, on connaît tous House of Cards, la West Wing, pour la part science-fiction, Alien, Battlestar Galactica, tout ça, à niveau de série télé, tout ça, c'est une grande influence pour mon dessin.
Et donc pour ce qui est de la genèse, enfin du... Comment vous en êtes arrivé finalement à participer? Donc c'est Onipress donc, qui vous a contacté.
Ouais.
Et
bon, en fait c'est moi qui a cherché un petit peu. J'ai fait la connaissance d'un dessinateur américain dans un festival en Algérie. C'est une histoire bizarre mais c'est super drôle. Et le dessinateur s'appelle Steve Lieber et il m'a invité à quelques semaines chez lui, à Portland. Et pendant ce temps-là, et ça s'est déroulé Emerald City Comic Con à Seattle. On a fait le festival et c'est là qu'Onipress avait un stand. Et j'ai me présenté aux éditeurs là-bas et j'ai montré mon portfolio, ils ont aimé. Donc, ils m'ont proposé d'être 44. C'est la rencontre avec les éditeurs sur le festival. Il te dit, il va t'écrire. Tu n'es pas sûr parce que bon, c'est des trucs que l'éditeur dit et ça n'arrive pas tout le temps. Mais dans ce cas-là, j'ai eu la chance de recevoir l'email de l'éditrice avec l'Éter 44. Ça c'est des parcours pour arriver à travailler avec ça.
Et donc comment s'est passée la collaboration avec lui, comment vous travaillez?
C'est bien, c'est super facile on va dire. Après les périodes d'ajustement de début, tu vois, tu commences un projet nouveau avec un scénariste nouveau, il y a toujours une petite période où il faut trouver la façon de faire. Mais ça, c'est super facile à travailler avec. Moi, j'espère que c'est pareil. Et oui, on se comprend assez bien. On a parlé par Skype, par email. on s'est rencontré personnellement en 2013, la première fois. Et pour New York Comic Con, j'ai visité, et on a fait la connaissance avec une personne. Mais bon, ça se passe facilement. Après 4 ans presque de boulot ensemble, c'est facilement.
Et donc par rapport à la BD franco-belge, comment ça, au niveau du rythme du travail, est-ce que c'est pas un peu différent?
Oui, il faut faire 22 pages plus la couverture chaque 4-5 semaines. Donc la rime, ça pousse, tu vois, ça va vite. Mais bon, je savais dès le début, parce que j'ai lu des comics quand j'étais petit, et j'ai vu des travailleurs sur Marvel, donc je savais que la rime est dure. Il faut faire une planche par jour, une planche par jour. Et c'est ce que je ne savais pas, c'était que la France devait être ancrée, tu vois. J'étais focus, j'avais mon focus sur les crayonnés et pas sur l'encre. Mais quand j'avais commencé à créer mon propre travail là, dans la BD, j'ai eu la chance de pouvoir continuer avec ça. Mais les rimes de travail, une planche chaque jour en trait, c'est un peu un rime de fou. Hein.
Ouais.
Voilà. Mais bon, on s'habitue.
C'est une expérience aussi à vivre, peut-être.
Oui. C'est recommandable pour tout le monde qui veut dessiner de faire ces trucs-là, parce que tu peux voir qui veut faire la BD et vraiment qui veut pas.
Effectivement. Alors, donc, pour en revenir un peu plus précisément, donc, sur la série en elle-même, on sent que vous apportez un soin particulier à vos personnages. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de leur création ainsi que de leur évolution?
Oui.
Parce que bon, ils changent, on voit qu'ils changent, on les voit un peu plus jeunes, on les voit après. Notamment le personnage de l'ancien président Francis T. Carroll,
ouais.
Qui est très humain, qui est finalement, enfin, il a un côté absolument un peu détestable, mais en même temps il est très humain.
Ouais.
Et est-ce que de qui vous êtes pour les représenter? Est-ce que vous êtes inspiré de présidents américains qui ont existé, Roosevelt par exemple, Truman, ou c'est...
Ah putain. Bon, les caractères de Carroll. Moi, je dirais un peu Nixon, tu vois, parce que, bon, si vous avez lu les trois temps, vous verrez comment ça se déroule. Donc, il est un peu, on va dire, méchant, mais c'est pas un méchant habituel, on va dire. Il est, comme tu dis, c'est assez humain. Mais le truc, c'est qu'il il aime les pouvoirs. Et cette idée que les pouvoirs pourrit tout, c'est très évident pour lui, tu vois. Et sur les 4e temps, on peut voir qu'au début, il n'était pas exactement comme ça. Je ne vais pas faire de spoiler, mais on va voir un petit peu l'histoire de Francis. Et ça change un petit peu. Et c'est vrai qu'il faut faire, il faut prendre des décisions difficiles, et ça change. Les caractères de personnes. Et pour lui, ça se passe aussi comme ça. Nixon, ouais. Peut-être qu'au début, il avait des plus belles intentions, mais après, c'est tout le Watergate, tout ça. Ça arrive, et ça arrive. Mais, ouais. Pourquoi pas Nixon, ouais. Mais un niveau exagéré, bien sûr.
Oui,
bien sûr.
Donc c'est en fait aussi l'exercice du pouvoir qui fait que ben, on va changer.
Ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, je crois que c'est visible un peu avec Blades, qu'il doit prendre des décisions difficiles, et ils sont pas toujours les décisions qui ont moins, qui sont morales. Mais ce sont des décisions justifiées sur la série. Et pour moi, ça, c'est un point fort de Charles. Il fait les personnages humains. Si tu penses à prendre les décisions que les précédents doivent faire, peut-être que tu faisais la même chose. Et il faut trouver ça. Et pour moi, ça c'est fort.
Oui, c'est vraiment intéressant au niveau des coulisses un peu du pouvoir, la façon dont ça se passe.
Exactement.
C'est ce qu'on voit aussi finalement.
Oui, c'est ça, parce qu'on est dehors et c'est facile de voir. Non, oh, je ferai ça, jamais je ferai ça. Je ferai pas une guerre pour justifier les développements des armes et tout ça. Mais quand il y a des aliens là-haut et tu es sûr que tu ne ferais pas ça, il faut voir. Ça, c'est très intéressant.
Et justement, donc ce qu'il y a de vraiment intéressant aussi avec cette série, c'est qu'il y a un développement constant. On est un peu dans le ça ressemble au cadre d'une série télé avec des rebondissements, la tension avant le... Donc il y a une vraie... Il y a une évolution extrêmement rapide du scénario, c'est-à-dire que les événements s'enchaînent.
Oui.
On a l'impression de ne pas avoir le temps de lire ouf. Un peu
ça n'arrête pas.
Ça n'arrête pas. Ouais. Mais en même temps, ça laisse quand même le temps au personnage de se développer. On saisit peu à peu des choses sur eux.
Mm-hmm.
On en sait un peu plus. Et donc, cette histoire qui prend un peu un rythme fou, est-ce que le scénariste, donc Charles, a déjà la fin?
Oui.
Est-ce que la fin est déjà.
Elle est écrite et la fin a été pensée dès le début.
D'accord.
Donc il sait qu'est-ce qu'il va passer. Et moi, pas moi, parce que je ne voulais pas. Il m'a demandé si je voulais savoir la fin et j'ai dit non. Je vais apprendre.
La découvrir en même temps.
Voilà. Mais il sait qu'est-ce qu'il va passer et combien de temps ça va prendre. Voilà.
Donc il y a déjà le canevas avec. Enfin, il sait où il va.
C'est
prévu. Est-ce que le hasard joue peut-être aussi un peu.
Il y a toujours l'hasard. Je crois que l'hasard, c'est pas un point important sur la série.
Mm-hmm.
Il n'y a pas des choses qui passent par hasard.
Mm-hmm.
Non, je crois pas. Il y a des petits trous, peut-être des histoires parallèles, mais sur la histoire principale, toutes les choses sont bien justifiées.
Alors donc dans les éléments aussi intéressants dans la série, il y a le côté amour libre aussi dans le vaisseau.
Mm-hmm.
Où finalement le sexe est quelque chose qu'on met peut-être pas forcément beaucoup en scène dans la BD en général.
Oui.
Et c'est représenté de manière, j'ai trouvé assez crédible et aussi donc très original.
Oui.
Donc, cette idée de mettre ça en scène. Est-ce que c'est venu aussi du scénariste qui vous a proposé?
Oui, c'était lui, parce que c'était un aspect de la vie normale qu'on voulait montrer, parce que ça passe.
Mm-hmm.
Ça passe, on est des êtres humains et on a besoin d'avoir contact avec des autres. Le sexe, c'est une part de la vie habituelle et ça passe sur l'espace aussi. On a un petit image sur les premiers temps, mais sur les quatrième temps que je travaille maintenant, ça va s'exprimer un petit peu mieux. Il y a des flashbacks qui racontent un peu l'histoire des personnages ensemble sur les vaisseaux, parce qu'ils ont été déjà cette année en voyage. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Et l'histoire de la mort libre, comme tu dis, du sexe sur les vaisseaux, ça va jouer un rôle important et ça se va raconter.
Mm-hmm. Parce qu'on voit un peu, au moins dans notre premier volet, pour Moi, si des lecteurs ne connaissent pas encore n'ont pas encore lu le début, on ne sait jamais. Donc, sans trop en dévoiler, donc dans le premier, finalement, on a le résultat. Ils arrivent un peu à une étape clé de leur voyage. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont ensemble, et on en voit le résultat. Et c'est vrai que ils ont un vécu déjà finalement. Et donc, ce sera donc davantage développé en flashback par la suite.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On va trouver qu'est-ce qui s'est passé avec les personnages et comment les sexes a joué un rôle important pour les relations humaines sur les vaisseaux. Et on va trouver aussi qu'est-ce qui s'est passé avec Rowan, qui c'est le personnage qui en parle de lui, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va prendre tout ça sur le quatrième volume.
D'accord, et donc...
Mais c'est pas faire des spoilers, tu vois.
Ah non, mais là, finalement, on a rien dit de trop...
Non, c'est tout est...
On invite évidemment nos lecteurs à... Enfin, ceux qui nous écoutent à découvrir cette série s'ils ne la connaissent pas déjà, parce que c'est vraiment très intéressant du point de vue politique, du point de vue des relations entre les personnages, la façon dont ça se déroule, des thématiques très actuelles aussi. Et donc sur les personnages ou la scène que vous avez préférée jusqu'à présent. Bon, c'est un peu compliqué de trouver peut-être, mais quelque chose qui...
Ça fait presque 4 ans qu'il y a des sens à la série, mais... C'est dur de chasser une scène.
Est-ce qu'il n'y a pas une scène ou au moins un personnage qui vous aura particulièrement parlé ou
duquel vous sentez proche ? Moi, j'aime tous les personnages. Le problème, c'est qu'il y a tellement... les personnages sont tellement nombreux que tu ne peux pas chasser une. Hein. Et peut-être que j'aime beaucoup les personnages des vaisseaux parce que la partie sci-fi c'est un peu plus amusant, on va dire. Et peut-être que la scène des sexes sur les premières temps soit une de mes préférées parce que ça a été la première fois que j'ai eu la chance de jouer vraiment avec les personnages sur quelque chose qu'on n'a pas vu beaucoup. Parce qu'on est habitué à voir des astronautes à l'espace et tout ça, les aliens. Mais moi personnellement, j'ai pas vu beaucoup de scènes de sexe sur l'espace. Et évidemment, c'est pas explicite. Hein. Avec du goût, je dirais, on avait un peu de goût pour faire ça. Mais oui, ça a été un premier défi et j'ai même eu ça. Voilà.
Très bien, donc merci beaucoup pour toutes ces précisions sur la série.
Merci.
Donc on invite aussi à ceux qui vous ont écouté à la découvrir parce qu'elle vaut vraiment le détour. Et donc pour terminer, quels sont vos projets alors comptés de...
Bon, je continue avec l'Ether 44 bien sûr. Et j'ai encore à dessiner huit fascicules, donc presque un an de boulot. Et j'ai bien défini aussi une mini-série chez Dark Horse qui s'appelle Mystery Girl avec les scénaristes Paul Tobin. Et j'ai dû finir aussi un album chez Glénat, c'est BD, qui sera l'étendue sur une série qui a apparu il y a 2 ans. Et qui s'appelle Anka, et bon, j'ai fait la boucle claire, tu vois. Et
d'accord.
C'est assez. J'arrive à faire plus de trucs que ça. Voilà.
C'est normal.
Ah oui.
Donc, un plaisir de lire tout ça, puis de lire la suite donc, de l'Ether 44.
Merci beaucoup, c'est mon plaisir.
Et bon festival.
Merci à vous aussi.
Merci. Merci.